Les parts actualités. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 23 février 2017 et c'est Clotilde Say qui anime pour vous sur les ondes de Canal M l'émission Les Paractualités. Les titres aujourd'hui, une aidante naturelle prie pour que son mari aille au ciel et ne condamne pas M. Cadot. Pour en finir avec les demi-vérités sur le financement des organismes communautaires. Étudiants en difficulté, persévérer, un jeune à la fois. Dans le Bas-Saint-Laurent, activité dans la région pour la semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Et par actualité nationale et internationale, ils sont entrés au temple de la renommée paralympique canadienne, on vous les présente. Et puis, ils sont malvoyants ou malentendants. 18 personnes partent faire le tour d'un mythique lac sibérien. Deux entrevues aujourd'hui avec Michel Poulain, d'abord directeur général de la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille, et avec Catherine Blanchette Dallaire, fondatrice de onroule.org. Alors, une aidante naturelle prie pour que son mari aille au ciel. C'est d'après un texte d'Héloïse Archambault, celle dont l'époux souffre d'Alzheimer ne juge pas l'homme accusé d'avoir tué sa femme. Une aidante naturelle dont le mari est atteint d'Alzheimer depuis bientôt 15 ans prie le bon Dieu tous les jours pour qu'il s'en aille au ciel, mais elle serait incapable de l'aider à mourir. Malgré le fait que j'aimerais que Fernand se trouve au ciel, je ne me sentirais pas la force et l'autorisation pour décider pour sa vie, confie Colette Duguet. Jointe par le journal de Montréal hier, la femme s'est dite interpellée par l'accusation de meurtre au deuxième degré contre Michel Cadot, un proche aidant qui aurait tué sa femme atteinte d'Alzheimer, par compassion, lundi dernier. Résidente du CHSLD Émilie Gamelin à Montréal, Jocelyne Lisotte avait émis le souhait de mourir, ont dit ses proches. Or, l'aide médicale à mourir lui avait été refusée. Secouée par cette histoire, Colette Duguet est incapable de juger ce geste. « Je ne peux pas lui lancer la pierre », dit la femme de 59 ans. Madame Duguet espère que le tragique événement permettra de revoir la loi sur l'aide médicale à mourir pour les gens atteints d'Alzheimer qui ne peuvent pas consentir aux soins en fin de vie. Qu'il soit coupable ou non, ça va créer une jurisprudence. Je ne voudrais pas me retrouver dans la peau des gens qui devront le juger, a-t-elle dit. Selon la Fédération, 141 000 personnes sont atteintes de maladies cognitives dans la province. Et ce chiffre doublera d'ici 20 ans. Pour chaque personne atteinte, deux ou trois proches aidants vivent les répercussions. Hier, le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, s'est dit attristé par cette histoire. Or, selon la loi actuelle, cette personne-là ne pouvait pas avoir accès à l'aide médicale à mourir au moment où le drame est survenu, a-t-il dit. Selon la députée du Parti québécois, Véronique Yvon, la possibilité que des gens puissent demander l'aide médicale à mourir à l'avance devrait être débattue. C'est un texte écrit avec la collaboration de Geneviève Lajoie. Pour en finir avec les demi-vérités sur le financement des organismes communautaires, lettre ouverte à la ministre Charlebois, vous aurez compris qu'il s'agit d'un texte collectif. Dans la foulée des actions de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, vous avez été interpellée lors de la période de questions-réponses orales du 7 février au sujet du sous-financement des organismes communautaires. Cette campagne qui réunit l'ensemble des secteurs de l'action communautaire autonome de tout le Québec réclame un rehaussement annuel de 475 millions. Votre réponse, qui semble nier le problème de sous-financement, en a toutefois déçu plusieurs. Par respect pour les dizaines de milliers de personnes œuvrant sans relâche au sein de ces organismes, permettez-nous de rectifier certains faits. D'abord, il est inexact de prétendre qu'il n'y a pas eu de coupe dans le communautaire. Plusieurs organismes ont subi une diminution de leur financement, comme c'est le cas pour les organismes de soutien au logement social. D'autres, comme les organismes communautaires en environnement, ont vu leur programme de financement être supprimé sans préavis ni explication. Vous dites que le gouvernement investit 1 milliard par année dans les organismes communautaires, mais vous omettez de préciser que seulement la moitié est consacrée au financement à la mission globale. Cette forme de financement que nous voulons voir augmenter de 475 millions par année garantit notre autonomie, contrairement aux ententes de services ou par projet qui nous rendent dépendants du réseau public. Le financement à la mission donne les moyens aux communautés de trouver par elles-mêmes des solutions aux problématiques sociales auxquelles elles sont confrontées. Ces communautés, qui sont composées de plus de 400 000 bénévoles, ont démontré depuis plus de 40 ans leur capacité à gérer collectivement et avec rigueur les sommes attribuées. La croissance des inégalités sociales et économiques au Québec n'est pas un mythe. Le sous-financement des organismes communautaires non plus. Le Québec s'appauvrit et ce sont les personnes fragilisées qui paient les frais de vos choix politiques. Faute de services publics et de programmes sociaux adéquats, ces personnes sont démunies. Lorsqu'elles se retournent vers les organismes communautaires, elles constatent qu'ils ne sont pas en mesure de répondre à la demande. Il est grand temps de rectifier le tir et de réinvestir massivement dans les organismes communautaires, les services publics et les programmes sociaux, afin d'assurer le respect des droits de toutes et tous et de réduire les inégalités socio-économiques. Depuis plusieurs années, vous vous positionnez comme étant la plus grande alliée des organismes communautaires. Ça tombe bien. Nous avons grand besoin d'alliés. Le gouvernement doit agir. Nous nourrissons beaucoup d'espoir quant à votre capacité de faire preuve de leadership pour que le financement des 4000 organismes d'action communautaire autonomes devienne une priorité gouvernementale dans l'ensemble des ministères, et ce, dès le prochain budget. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'un texte collectif adressé, c'est une lettre ouverte adressée à la ministre Charlebois. Il est le directeur de la Fondation En Vue, de l'Institut Nazareth et Louis Braille, également futur partenaire, mais ça c'est un autre sujet et nous allons en parler ensemble. Michel Poulain, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous allez bien, Monsieur Poulain?
Ça va très très bien, le printemps est à nos portes.
Ah, écoutez, quel bonheur. Alors Michel Poulain, j'aimerais aujourd'hui que nous parlions de cette soirée qui s'appelle « Remplissez vos sacs ». De quoi s'agit-il exactement?
Alors, c'est un défilé de mode au Labbé Centre-Ville, au deuxième étage, qui sera sous la présidence d'honneur de Jean Héroldi, que tout le monde connaît dans
bien
le milieu
sûr,
de la
oui.
mode au Québec. Alors, Jean nous apporte son concours pour l'animation et concocter un défilé de mode qui va nous amener justement les chaleurs du printemps et le soleil de l'été, avec un défilé qui sera très en couleur parce qu'il y aura beaucoup de surprises à l'intérieur de l'organisation du défilé. Alors, vous savez, un défilé de mode, ça demeure un défilé de mode, mais nous voulons faire les choses différemment. Alors que les gens pourront déguster de bonnes choses tout en regardant nos gens, nos mannequins défiler. Et parmi ces mannequins, il y aura 4 personnes qui sont en déficience visuelle
okay.
et qui vont faire ce défilé. Nous aurons également 4 chanteurs du groupe Tocadéo. Uh-huh. Le groupe Tocadéo, c'est un quatuor qui parcourt le Québec et les Maritimes actuellement avec beaucoup de succès et qui seront de la partie. Ce seront les invités d'honneur de notre spectacle annuel qui se déroulera en septembre prochain, qui s'appelle Tocadéo et leurs invités. Alors, ces 4 bonhommes feront non seulement une prestation de défilé de mode, mais feront également une prestation musicale pour les invités.
Très sympa, ça, tout ça. Mais pourquoi remplissez vos sacs?
Bien, c'est parce qu'on combine, bien sûr, le défilé de mode, mais aussi une soirée magasinage. Alors, pour les gens qui apprécient le magasinage, et particulièrement au Labbé Centre-Ville, les invités qui vont se procurer leurs billets, être présents sur place, pourront profiter de 25 % de rabais sur la marchandise.
Oh, wow.
En plus. Donc, c'est une soirée où on donne un coup de main à la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille, mais aussi on peut faire son magasinage pour le printemps, ce
mais
qui
oui.
nous donne psychologiquement l'énergie nécessaire pour se rendre au mois de mai.
Comme vous avez les bons mots pour nous attirer dans cet adorable guet-apens qui va servir à la Fondation. Et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu de cette Fondation En Vue. De quoi s'occupe-t-elle? Quelle est sa mission exactement?
Alors, la Fondation En Vue existe depuis une quinzaine d'années et elle est totalement dédiée à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Dans le cadre, entre autres, de la recherche de financer la recherche avec les nouvelles technologies. Notre objectif, bien entendu, c'est l'autonomie des personnes en déficience visuelle. Il y a énormément de travail qui se fait. Vous savez que l'Institut Nazareth et Louis Braille a 150 ans d'existence.
Oui.
Donc, il s'en est fait beaucoup de choses depuis.
Oui.
Et le nouveau phénomène, je vous dirais, depuis les 20 dernières années, c'est le phénomène de basse vision. Les gens ont l'impression que l'Institut Nazareth et Louis Braille, c'est seulement pour les aveugles, pour les personnes en déficience visuelle totale. Ce qui n'est pas le cas.
Ah.
Il y a une augmentation faramineuse de la clientèle en basse vision, pour toutes sortes de raisons, bien entendu, le vieillissement de la population, mais aussi tout le travail que l'on fait sur nos ordinateurs, les écrans bleus et tout. Donc ça affecte énormément la vision des gens, ce qui fait que l'Institut travaille aussi sur tout le phénomène de basse vision et d'essayer de trouver des moyens pour que les gens soient de plus en plus autonomes. Même que la Fondation a financé un système et a, je vous dirais, une quarantaine de personnes qui ont bénéficié de cela actuellement. Ce sont des gens qui sont en basse vision, mais qui ne pouvaient pas conduire. Et nous avons maintenant un système de formation de conduite automobile pour ces gens-là qui est adapté, avec des systèmes adaptés. Et les gens passent, je vous dirais, autour de 6 mois à l'Institut pour ce cours et après vont à la SAC pour leur permis de conduire et ça fonctionne très bien. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui, à 52 ans, se retrouvent avec un permis de conduire. Oh. Alors, vous savez, la nouvelle technologie fait en sorte qu'on peut augmenter considérablement l'autonomie des gens.
C'est fou parce que c'est à cause des nouvelles technologies que les gens perdent un peu de leur capacité visuelle de plus en plus et de plus en plus jeune.
Effectivement, c'est paradoxal.
Oui,
c'est ça. Alors, la Fondation est dédiée entièrement à l'Institut pour ses projets. Et l'autre élément sur lequel on met beaucoup d'emphase, ce sont les bourses d'études. L'autonomie des personnes en déficience visuelle passe par l'éducation. Donc, on a un programme de bourses d'études universitaires, cégep, collégial, mais on aura à partir de 2017 des bourses pour les diplômes d'études professionnelles. Donc, ça, ce programme-là nous permet, ou enfin permet à des gens en déficience visuelle partielle ou totale de poursuivre des études et d'être participatifs dans la société de façon totale.
Alors, M. Poulain, pour terminer cette entrevue, pour mettre sur pied tous ces beaux projets, évidemment, ça prend de l'argent et alors ça donne un sens complètement à cette soirée du 29 mars prochain. Je le rappelle, qui va s'appeler Remplissez vos sacs, ça va se passer à la baie. À partir de quelle heure ça commence?
Alors, c'est à 18h et les gens peuvent se procurer des billets sur le site Internet de la Fondation En Vue. C'est très, très simple. Vous faites fondationenvue.org et vous suivez les instructions qui vont vous amener sur la plateforme pour vous procurer vos billets. Les billets sont au coût de 110$. Donc, c'est une activité bénéfice, mais c'est très raisonnable. Oui. Et non seulement vous assistez au défilé, au cocktail et tout ça, mais Jean Héroldi vous offre également son livre. Il a écrit un livre il y a quelques années sur, bien entendu, l'habillement, enfin, le look et tout ça. Alors, les gens vont recevoir gratuitement le livre de Jean, autographié. C'est une valeur, juste le livre est une valeur de 40$. Il est actuellement en librairie. Donc, on va remettre également aux gens gratuitement le livre autographié de Jean.
Plus 25% sur vos achats à la baie. Tout ça pour la Fondation, bien sûr. C'est au profit de la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille.
Alors, nous serons très beaux. Nous serons très beaux ce printemps. On va combler notre garde-robe.
Bravo, M. Poulain. Michel, on va se reparler dans les semaines à venir parce qu'on peut déjà l'annoncer, mais ce n'était pas le sujet de notre entretien du jour. Mais il y a un partenariat qui est en train de se faire entre vous et nous, donc Canal M. Il va y avoir une nouvelle émission, d'ailleurs, que vous allez animer avec comme co-animatrice Diane, comment je prononce, Felice?
Felice,
c'est ça, il me semblait bien.
D'origine italienne.
Voilà. Alors, je m'en doutais, il me semblait que Felice, ça sonnait pas du tout bien. Alors, une émission au titre très, très prometteur, point de vue, j'aime beaucoup. Et on aura l'occasion d'en reparler sur les ondes, bien évidemment, avant que vous-même vous rentriez en ondes.
Avec grand plaisir.
Merci, M. Poulain, et passez une belle journée.
Au plaisir, au revoir.
Au revoir. Par actualité régionale, persévérer un jeune à la fois, l'escouade de la persévérance a surpris Vincent Dijoux en lui remettant un ruban honorifique pour le travail qu'il accomplit auprès de la trentaine d'étudiants requérant des services adaptés au centre collégial de Sainte-Marie. Il y a un côté humain dans le développement de la relation d'aide que je développe avec eux, mais aussi un côté technologique puisque nous travaillons avec différents logiciels d'aide dans les cas de dyslexie, par exemple, à partager Vincent Dijoux, technicien en éducation spécialisée. Vincent Dijoux, originaire de l'île de la Réunion, est arrivé au Québec en 2007 à Saint-Georges. Après ses études au cégep Beauce-Appalaches, il est venu en aide à un étudiant handicapé avec qui il s'est lié d'amitié. Vincent est patient et sait comment s'y prendre pour encourager les étudiants pour ses paroles de soutien, mentionne Lison Chabot. Il les assure, il les rassure sur leur capacité de réussir. Plusieurs activités dans la région pour la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. C'est d'après un texte d'Adeline Mantic. Le précédent était de Misaël Bilodeau. L'Association de la déficience intellectuelle de la région de Rimouski, c'est-à-dire l'acronyme ADIR, organise plusieurs activités à l'occasion de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, la SQDI, qui aura lieu du 12 au 18 mars. Plusieurs activités auront lieu au courant de cette semaine, dont le brunch de la Métis à la salle Le Colombien le 15 mars dès 10h, le 4 à 7, de la SQDI au bar Le Doulis de Rimouski le 16 mars dès 16h et le brunch de Rimouski à la cafétéria de l'école Paul Hubert le 19 mars dès 10h30. Plusieurs activités auront lieu dans les écoles Le Mistral, Paul Hubert, Bois et Marais, L'Estran, Les Alizés et l'Aquarelle à l'occasion de cette semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Pardon. Alors, un gagnant pour finir chez Groupe AFI AFFI Logistique. Les gagnants de notre concours démontrent ta fierté d'être employé d'une entreprise adaptée, commencent à recevoir leur prix. Et le 21 février, M. Raymond Gouin, directeur général de la CQEA, s'est rendu chez au groupe AFI, AFFI Logistique à Anjou, pour remettre à M. Adrian Gonzalez la télévision 32 pouces qu'il a remportée grâce à ce concours qui passait notamment via Facebook. Il fallait trouver rédiger le plus beau message en ce qui concerne l'entreprise qui nous engage dans le « nous », entendez par là, les personnes qui vivent avec une déficience, qu'elles soient intellectuelles ou physiques. Voilà, donc bravo à M. Adrian Gomez, me semble-t-il, voilà, qui a reçu cette jolie télévision. Alors, onroule.org, c'est le 5e anniversaire et j'ai en face de moi Catherine Blanchette Dallaire. À qui on doit ce site-là?
Oui.
Tout, de A jusqu'à Z.
Oui, principalement.
Alors, bonjour Catherine, nous sommes ravis de vous accueillir ici chez Vues et Voix et à la radio Canal M. J'aimerais beaucoup, d'abord que vous nous rappeliez qu'est-ce que c'est On Roule et qu'est-ce que c'est onroule.org.
On Roule, en fait, c'est un diffuseur d'informations sur l'accessibilité qui existe actuellement, que ce soit au niveau des lieux ou des logements, ou même des organismes d'aide et des ressources. Donc, le portail est divisé en quatre grands aspects. Le répertoire des lieux. Donc, si on se cherche, par exemple, une coiffeuse qui est accessible, bien, à ce moment-là, chaque fiche indique les informations d'accessibilité de la coiffeuse, qui peut être plus ou moins accessible, mais qu'à ce moment-là, la personne peut choisir si ça lui convient ou pas. Mm-hmm. On a la même chose dans le logement, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui, malheureusement, doivent habiter en CHSLD faute de logements adaptés. Et inversement, on a des propriétaires, des gestionnaires qui ont des logements accessibles ou adaptés, mais qui n'arrivent pas à les louer à la clientèle qui en a besoin. Donc, nous, on essaie de faire un petit peu le pont de communication entre les deux. On a un répertoire des organismes d'aide qui sont accessibles, parce qu'encore là, on a tous des problèmes divers.
Différents.
Donc, et quand on a un problème de mobilité en plus, ça peut être compliqué. Donc, on essaie de répertorier ces organismes-là qui sont accessibles. Et on est en train de développer une base de connaissances parce qu'encore là, il y a plein d'organismes ou même des étudiants en recherche ou des organisations, des municipalités qui créent des documents, des guides, des ressources par rapport à l'accessibilité universelle ou autre, telle que la FECHIM qui a fait un guide sur l'accessibilité universelle en coop. Mais nous, on veut répertorier ça pour que les gens puissent savoir que ça existe et les réutiliser, les lire, les consulter, donc diffusion de la connaissance.
Ça fait beaucoup de choses. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que les hôtels sont répertoriés?
On n'en a pas beaucoup. On est ouvert à tous. Donc, si les hôtels veulent commencer à s'inscrire, la catégorie, elle est là. Alors, je lance l'appel.
Oui, parce que je pense, par exemple, je vais vous dire pourquoi je pense à ça, parce que j'ai lu récemment, dans le cadre de ce magazine d'actualité, une nouvelle qui concerne la ville de Paris, et maintenant, qui offre un guide, mais un guide et sur Internet et sur papier, pour les touristes qui viennent visiter la ville. Vous savez que Paris est l'une des villes les plus visitées au monde, et il y a beaucoup de personnes handicapées quel que soit le handicap, qui viennent séjourner à Paris. Alors, ils ont sorti un guide avec les hôtels, les restaurants, les salles de spectacle, les bars qui sont accessibles. Alors, c'est pour ça que je vous posais les questions, parce que je trouve ça tellement génial, quoi.
Bien, en fait, au Québec, il y a Kiroule, qui est spécialisé
oui,
au niveau
vrai.
De la culture.
Donc,
c'est plus ceux qui ont ce type de guide-là. Mais nous, on est ouverts à tout. Donc, les catégories sont là si les gens veulent s'inscrire. Par contre, on travaille avec un niveau d'accessibilité qui est un peu différent, que nous, on appelle l'accessibilité qui est humaine. Donc, c'est là, c'est pour ça que les gens peuvent indiquer le niveau d'accessibilité
voilà.
que les gens utilisent ou pas. Mais on parlait de touristes tantôt. Au mois de juin, on va avoir notre application mobile.
Oui.
Et donc là, ça va être très sympathique pour les touristes de pouvoir savoir télécharger l'application et savoir à proximité, là, c'est quoi les lieux qui sont... c'est quoi l'accessibilité des lieux, en fait.
OK, parce que là, pour l'instant, ça fait 5 ans que On Roule existe.
Oui.
Mais l'application mobile, elle, c'est une nouveauté.
C'est une nouveauté. On vient de terminer les maquettes. On a fait des tests utilisateurs pour voir ce que les gens comprenaient bien, parce que l'application mobile va être conçue et pensée pour des personnes qui ont diverses limitations, donc au niveau des contrastes, au niveau du fil utilisateur, au niveau de plein de choses. Donc, on a fait plusieurs tests utilisateurs là-dessus. Et là, on entre en appel d'offres pour avoir une application fonctionnelle début juin.
Oh, début juin.
Oui.
Ça va venir vite, ça.
C'est un gros projet.
Catherine Blanchette-Dallaire, donc ça fait 5 ans que vous existez. Quel bilan vous dressez de ces 5 dernières années?
Eh, tabarouette! Apprentissage encore et encore et encore.
Et encore hein?
Le site Internet est à sa 5e version.
Mm-hmm.
Moi, j'ai commencé le site, en fait, suite à un accident qui a fait que j'ai vécu 4 mois en fauteuil roulant.
Ouais.
Je me souviens que j'étais à l'hôpital quand j'ai commencé à programmer la première version du site. Et moi, je vais juste faire un Craigslist de base minimaliste.
Ouais.
Et là, je regarde ce qu'on a construit depuis 5 ans. Puis c'est très, très, très loin de ce que j'avais en tête, mais c'est très, très, très beau aussi.
Oui, t'sais, c'est ça.
Ça a beaucoup évolué, mais ouais. pour le bien, là.
Ben oui. C'est fou, hein, comment la vie, parfois, nous réserve de ces surprises-là. Elle nous fait quelque chose de moche et puis paf, il naît cette idée-là.
Ben c'est tout ce que j'ai vécu, en fait, pendant 4 mois
qui vous a donné le goût d'améliorer les choses pour vous-même, mais aussi et surtout pour la communauté.
Oui.
Eh bien, écoutez, bravo. Alors, donc, au printemps, un nouveau site web?
Oui.
Une nouvelle application?
Oui.
On peut en savoir plus, j'imagine. De toute façon, si on va visiter simplement votre site web, on fait quoi? On fait donc onroule.org, tout bêtement?
Onroule.org.
OK.
Et puis, en page d'accueil, il y a un lien vers la page dédiée sur l'application mobile où on essaie de mettre des petites nouvelles par rapport où on est rendu le projet. Par rapport au site web, on ne met pas de nouvelles parce que c'est tellement un gros chantier en ce moment qu'il n'y a pas...
On imagine, ben oui. Comme on dit, c'est en construction.
C'est ça.
Vous aussi, vous êtes dans les cônes oranges.
Oui, exactement. C'est ça, c'est des cônes de triple W. Mais oui, donc pour le site web, en fait, ça va être juste quand on va mettre en ligne le nouveau site que là, les gens vont voir la différence.
Oui.
Et pour l'application mobile, on a une page dédiée avec les nouvelles et les gens peuvent s'inscrire à une infolettre dédiée à l'application mobile pour avoir des nouvelles spécifiquement sur ce dossier-là.
Alors, pourquoi ne pas aller tout de suite voir ce qui se passe sur onroule.org? Bravo encore une fois pour cette initiative que vous aviez créée il y a 5 ans. Longue vie. Et puis, on a bien hâte de voir naître cette application-là. On vous réinvitera à ce moment-là. Catherine Blanchette-Dallaire, fondatrice de On Roule. Merci.
Merci.
Bonne journée. Par actualité nationale, la médaillée paralympique en natation et ministre du Sport et des Personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtraud, fait partie d'un groupe de 5 personnes d'exception accomplies, nommées aujourd'hui pour être intronisées au Temple de la renommée paralympique canadienne pour 2017. Elles le seront officiellement lors d'un gala le 7 avril prochain à Ottawa. Quand on dit aujourd'hui, ça s'est passé avant-hier, c'est donc très récent. Qualtraud de Delta en Colombie-Britannique est intronisée dans la catégorie des bâtisseuses avec Maureen Orchard de Winnipeg au Manitoba et Archie Allison de Toronto en Ontario. Nommée dans la catégorie des entraîneurs, il y a Ozzy Zawicki de Cochrane en Alberta, la skieuse paralpine Carolina Wisniewska, originaire de Calgary et vivant maintenant à Ottawa en Ontario, et elle est nommée dans la catégorie des athlètes, bien sûr. Les réalisations exceptionnelles et les succès comme pionniers de tous nos intronisés est une merveilleuse raison pour une célébration et une reconnaissance, a dit Karen O'Neill, DJ du Comité paralympique canadien. Dans le Figaro, on pouvait trouver cette nouvelle, malheureusement pas capable de trouver le nom de la personne qui l'a rédigée. 18 personnes partent faire le tour d'un mythique lac sibérien, une entreprise hors du commun pour ses aventuriers, dont la moitié sont en situation de handicap visuel ou auditif. C'est une aventure hors norme pour des personnes hors normes, hors du commun. Un groupe de 18 personnes, la moitié sont handicapées. Et elles vont partir le 24 février, donc demain, si je ne m'abuse, et elles vont revenir le 7 mars affronter le grand froid sibérien lors du défi Baïkal, qui est le nom du lac. Ce défi, c'est une grande randonnée à ski, en raquette et à pied sur le lac russe éponyme. Le voyage est organisé par Vue d'Ensemble, une association composée de jeunes déficients visuels, avec l'aide de deux autres associations, Ivoire et les montagnes du silence. Parmi eux, Nadia Boumamidi, une éducatrice spécialisée de 35 ans, souffre d'une rétinite pigmentaire, une maladie qui lui fait perdre progressivement la vue. Elle a rencontré il y a un an, via une page Facebook, deux personnes atteintes de ce problème, Alice Lapujade, 25 ans, qui vient de finir ses études. La jeune fille souffre du syndrome Duchère, une maladie génétique proche de ce qu'a son aîné qui la prive peu à peu de sa vue et de son audition. Ensemble, elles finalisent leurs préparatifs pour le voyage. Les deux jeunes femmes ne sont pas spécialement des grandes sportives. J'ai toujours été très nulle en sport à l'école, car ma vue commençait à se réduire et les activités sportives à l'école étaient très mal adaptées pour une personne handicapée, explique Nadia au Figaro. Si elle participe au défi Baïkal et s'apprête à affronter les températures glaciales de la Sibérie, il peut faire jusqu'à moins 30 à cette période de l'année, c'est donc moins pour le sport que pour vivre une expérience humaine ensemble. Mais pas d'assistance infantilisante ici. Ce ne sont pas des gens sans handicap qui nous emmènent en vacances, défend Nadia, mais un véritable échange convivial entre des parcours différents face aux maladies. Quand, lors des entraînements, un homme atteint de cécité doit avancer en binôme avec une femme sourde, la communication est cocasse, mais ça se fait. On rit beaucoup d'ailleurs. À Vue d'Ensemble, on plaisante sur le froid russe. Chacun se moque de ses propres déboires. On s'appelle les bigleux. Bref, on n'est pas du tout dans le pathos, confie Gérard Muller, un aveugle strasbourgeois qui a déjà voyagé de Paris à Pékin en tandem et qui est aujourd'hui l'un des piliers du projet. Alors ce défi Baïkal, c'est aussi une occasion de briser les préjugés autour des handicapés qui sont finalement tout aussi capables de mener des projets ambitieux que le reste de la population. Si des personnes voyantes restent nécessaires pour les guider, les jeunes malvoyants de l'association Vue d'Ensemble ont organisé l'essentiel du périple. Finalement, ce sont les handicapés qui sont les aidants ici, conclut Gérard Muller. Il y a quelque chose de presque mystique dans ce défi. On est beaucoup dans le groupe à avoir des handicaps évolutifs qui vont se dégrader. C'est pas par hasard si on se retrouve. En fait, c'est une quête, raconte Nadia. L'aventure au lac Baïkal, finalement, c'est une manière de prouver au monde et à eux-mêmes que les maladies ne les ont pas vaincus. Voilà, c'est sur cette belle histoire que s'achèvent les paractualités de la semaine. En ce jeudi, dès lundi prochain, retrouvez François Broder à ce micro. Merci beaucoup à toute mon équipe. C'était Clotilde Sey qui vous souhaite une jolie fin de semaine. Salut!